Je suis très heureux de vous retrouver sur La Nouvelle Génération. Bonjour, merci de nous choisir. Merci d'être là pour l'émission Club de la Presse. Les droits de l'homme étaient à l'honneur hier, 10 décembre 2024. Comment se porte le tableau des droits de l'homme au Togo? Quels sont les défis à relever pour que chaque citoyen jouisse de ses droits? Je poserai la question à mes confrères journalistes en studio avec moi dans cette émission Club de la Presse de ce mercredi 11 décembre 2024. Nous aborderons d'autres sujets liés à l'actualité. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sosa assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Lousseau au micro. Salutations fraternelles à vous tous et qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires Radio Lumière à Nekor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM, nous sommes à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Nous sommes toujours heureux quand nous savons que vous nous suivez dans le monde entier grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Les Bénins. Vous le savez très bien, Club de la Presse, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain et aussi du monde entier. C'est avec nos confrères journalistes en studio. Avec moi, bien sûr, confrères journalistes, déjà là, c'est bien. Justin Nani, Justin, bonjour.
Pascal, bonjour.
Bonjour à tous. J'espère que tu vas bien.
Je vais très bien, Dieu merci.
Tu as préféré le rouge avec une casquette rouge aussi, hein?
Oui, ça, il le faut.
C'est quoi le message?
Je t'expliquerai après.
D'accord.
J'ai voulu penser spécialement pour les sportifs. Comme je l'avais annoncé l'année dernière, donc pour ce qui concerne les élections au niveau du bureau exécutif.
Il semble qu'on ne t'écoute pas. Nous allons te permettre de te déplacer pour un autre micro là. Le temps de saluer Abbas Isaka qui s'est déjà installé aussi. Abbas, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs du Canal FM qui nous suivent souvent.
Alors, c'est toujours commandant?
Ah oui, parce que même commandant, les gens sont jaloux de ce grade.
Ah mais pourquoi pas, les gens doivent être jaloux de ce grade, parce que n'est pas commandant qui veut.
N'est pas commandant qui veut, donc c'est comme ça, il faut savoir servir son pays.
Voilà.
Et quand on sert son pays, même si on est commandant, on tient.
Finalement, est-ce que ce n'est pas un commandant civil?
C'est un commandant civil.
pour ne pas faire la confusion.
Pour ne pas faire la confusion. Donc,
c'est important.
Il y a le commandant et le commandant. D'accord. Il y a commandant et commandant.
Ok, commandant donc, et commandant.
Voilà, il faut le faire. Donc, c'est par rapport à ça, commandant et commandant, ce qui fait que les gens sont jaloux de mes acquis.
Voilà. Je ne sais pas si Justin est jaloux vraiment de tes acquis.
Non, pas du tout. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Bonjour aux techniciens qui sont de l'autre côté. Donc, je disais tout à l'heure que j'envoie une salutation fraternelle à tous les sportifs du Togo et pourquoi pas du monde entier. Et je pense particulièrement à ce nouveau bureau, les membres de ce nouveau bureau exécutif de la Ligue régionale maritime. Donc, on en parlait la fois dernière. Donc, l'élection a eu lieu. Donc, la liste, le renouveau a remporté. C'est une très belle chose. Avec ce programme ambitieux, donc, je salue également au passage le président de cette ligue, M. Firmin Aïkou et Ajavon, et toute son équipe. Donc, je n'oublie pas non plus tous les maires de la préfecture des Lacs. Voilà. Donc,
Merci beaucoup. Lui, il est déjà béni et il ne pourra même pas être aussi jaloux des acquis d'Abbas. Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour Pascal. Je crois qu'il faut faire la précision. Le seul béni de la corporation. Je crois que je.
Non, mais je suis béni aussi, Sylvain.
Non, là, ce n'est pas procuration. Sinon, c'est moi qui partage quand même la bénédiction au sein de la corporation. Donc, si tu le veux, je crois que tu dois me voir en aparté pour qu'on puisse discuter des conditions. Donc, voilà un peu.
Les conditions de bénédiction.
C'est moi qui l'offre aussi.
Non, vous écoute.
Donc voilà,
j'espère que tu vas bien.
Je suis en forme.
Dieu merci. Et merci d'avoir répondu à notre invitation.
C'est moi.
Voilà, Gadiel Tounadi, bonjour.
Pascal, bonjour.
Je le connais aussi béni, hein, et il est béni.
Oui, par indulgence.
Mais comment faire l'indulgence? C'est vous qui partagez la bénédiction.
Il n'a qu'à parler, on va l'écouter.
Justement.
Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Auditrice de Canal FM.
Gadiel, j'espère que vous allez bien.
Absolument bien.
Merci. Ça va aussi par la grâce de Dieu. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est que déjà dans les kiosques ce matin, votre journal Santé Éducation est là. Et vous intéressez à beaucoup de sujets liés à notre santé. Absolument. Vous savez bien le faire. Vous nous apportez des conseils, des recettes, beaucoup de choses quand même qui nous amènent surtout à prendre soin de notre santé, à faire plus, surtout à l'heure de la prévention. Merci de le faire. On sait que vous êtes, quand on parle de santé éducation, c'est aussi Mabès, c'est ce marché du bien-être à l'heure de la santé que vous organisez surtout au Togo. Et ce marché sera à sa sixième édition cette année. Alors, c'est quand déjà la période réservée pour ce marché?
Ok, d'accord, merci pour la question. C'est vrai qu'on a annoncé dans nos parutions le 10, c'était déjà passé hier, le 11, le 17, mais malheureusement, ça ne pourra pas avoir lieu pour des réglages d'organisation. Mais nous sommes tout à fait maintenant prêts que le MABES aura lieu le 18, c'est-à-dire le mercredi prochain. Et nous allons faire un grand meeting de sensibilisation au marché d'acier à Idogome, chez les femmes revendeuses du marché d'acier à Idogome, entre 6 000 et 7 000 femmes qui animent ce marché. Nous irons leur parler de leur santé. Vous savez, Pascal, dans les marchés, quand vous faites un petit diagnostic, quand vous prenez la tension, la glycémie, vous prenez le faux calcul, l'IMC de ces femmes, c'est ahurissant, hein. Donc c'est une cible très à risque. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on a encore crié sur les toits par rapport aux maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc c'est une cible, nous voulons aller parler à ces femmes pour leur donner encore, bien renforcer leurs connaissances en matière de santé. Et puis on est en train de prévoir cela dans l'après-midi, c'est-à-dire dans la soirée, faire une grande conférence publique dans un établissement de la place. On va confirmer tout cela d'ici vendredi.
D'accord, ce sera confirmé d'ici vendredi.
Absolument.
Voilà. Revenons à la parution du jour, santé-éducation. Nous sommes dans les périodes de fêtes et vous vous intéressez justement à cette période. Vous écrivez « Fêtes, manger, boire et préserver sa santé ».
Tout à fait. Vous savez, la fête rime avec un débordement, et le débordement se trouve dans les plats. Et très souvent, le débordement conduit des gens à l'hôpital après. Donc, au lendemain, faites juste un petit tour le lendemain des fêtes. Vous allez voir beaucoup d'animation dans les formations sanitaires. Surtout avec tout ce que nous avons encore aujourd'hui sur le marché et que les gens se préparent à consommer. Donc nous disons, c'est la fête, c'est vrai, nous allons manger, c'est vrai, et nous allons boire, c'est vrai, mais qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire? Parce que Pascal, dans tout ce que nous disons pendant cette parution, nous voulons que nous tous, nous passions ces moments de fête et préserver les organes vitaux de notre organisme. Le cœur.
Tout à fait.
Le foie. Le foie, c'est un appareil qu'on met en turbo pendant les fêtes, et après, il y a des problèmes. Le pancréas, les reins, l'estomac, le tube digestif et tout. Donc, il faut que nous consommions des plats qui vont garantir la santé de ces différentes parties de l'organisme. On ne va pas consommer un plat qui va bloquer notre métabolisme, qui va bloquer la bonne circulation du sang. Donc, des experts se prononcent sur ce thème-là. Comment manger? Comment boire? Comment passer les moments de fête? Et quel choix alimentaire faire pour préserver la santé C'est ce que nous mettons dans cet article.
Et justement, c'est ce que vous mettez dans cet article. Vous vous intéressez à un autre sujet, bien sûr, c'est le sujet de la sexualité. Vous écrivez 6 pratiques pour raviver la sexualité dans le couple.
Oui, vous savez, on est à la fin de l'année. Hein. Vous vous rappelez, la semaine passée, on avait donné des recettes ici. On est en fin d'année. En fin d'année, c'est le moment pour ramener encore les couples à renforcer leur intimité. On a couru durant toute l'année. Hein. On sort le matin, on revient très tard le soir, fatigué. Le mois de décembre, c'est un mois de rechute. Donc, comment renforcer l'intimité dans le couple? Cet article nous donne quelques conseils générés par des experts et puis 2 recettes pour l'homme et pour la femme, comment rebooster l'intimité dans le couple. C'est très important pour la fête, pour les fêtes.
Ah oui,
pour la famille.
Puisque ça fait partie de la fête.
Absolument.
Voilà. Alors, vous vous intéressez aussi à d'autres sujets, hein, puisque nous prenons même d'ailleurs ces sujets au pif dans le journal paru Santé et Éducation paru aujourd'hui. C'est vrai que vous vous intéressez également à d'autres sujets. Et vous écrivez aussi « Alerte, limiter le temps assis dans la toilette ». Souvent, c'est vrai que nous avons un temps relativement long dans les toilettes. Vous nous proposez de limiter ce temps.
Mais vous savez, aujourd'hui, on a de plus en plus de toilettes qui nous permettent de passer du temps dans les toilettes. Ce n'est pas les guêpes d'avant où les mouches vont vous chasser après quelques instants. Là, la remarque est faite que les gens vont aux toilettes avec leurs journaux, avec leur portable. C'est là-bas qu'ils font des coups de fil. C'est là-bas qu'ils lisent, c'est là-bas qu'ils réfléchissent. Donc il y a beaucoup qui vont dans leur toilette pour faire des activités. Or, la principale activité, c'est de déféquer et de mettre au propre et partir. Alors il y a une intéressante étude qui a été faite par un médecin en Europe là-bas et qui dit de faire attention à tous ceux qui vont passer le temps dans la toilette. Au-delà de 10 minutes, cela peut conduire à des complications. Alors, quelles complications? Pourquoi il peut y avoir des complications? Selon cette étude, la position que nous adoptons sur le pot ne favorise pas la bonne circulation du sang. C'est pourquoi des fois, vous voyez qu'il y a des gens, quand ils passent du temps comme ça sur le pot, quand ils se lèvent, ils ont tendance à avoir le vertige ou bien à tomber. Donc, c'est un aspect important, hein, nous n'allons pas en dire plus, que nous recommandons nous tous. Allons aux toilettes, faisons rapidement les besoins, comme on le dit,
oui.
Et puis ressortons en bonne santé. Maintenant, si quelqu'un est constipé, hein, ce n'est pas la peine de traîner dans la toilette et s'efforcer. Il y a une manière de régler ce problème, c'est aussi dit dans cet article. Un article important pour nous tous.
Justement, un article important pour nous tous. Mais vous nous donnez aussi un espoir par rapport à l'éradication du paludisme. Et en Afrique, vous écrivez vaccin R21, matrice-M, un espoir pour l'élimination du paludisme en Afrique.
Oui, parce que vous savez, ça, on peut dire que ce n'est pas tôt, hein, parce que le palu a fait des victimes en Afrique, ça fait des lurettes. Et il y a des recherches qui sont faites quand même. Et voilà, aujourd'hui, il y a des vaccins qui sont à l'étape expérimentale et qui sont très avancés et qui donnent beaucoup de bons résultats, donc dont ce vaccin qui a été présenté la dernière fois au cours d'une rencontre. Je pense que le système de santé sait comment gérer tout cela pour que les enfants soient protégés contre le paludisme. N'oubliez pas que le paludisme est une des causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans et chez les adultes. Au Togo, en Afrique, c'est une maladie qui tue encore de nos jours, malgré tous ces millions et millions de moustiquaires imprégnés qu'on distribue. La nofèfe met toujours l'endroit pour piquer les gens.
Est-ce que ça veut dire que les moustiquaires ne sont plus efficaces?
Bon, est-ce que les gens portent d'abord bien, mettent d'abord les moustiquaires?
Il y a cela aussi.
Donc, ça aussi, c'est tout un problème. Mais s'il y a un vaccin qu'on peut inoculer, qui peut protéger, surtout les enfants, c'est déjà une bonne étape. Donc, c'est à suivre.
D'accord, c'est à suivre, bien sûr. Je sais qu'il y a des pays qui sont en étape alors d'expérimentation hein, par rapport même à un certain nombre de vaccins. Et il y a le Ghana, le Burkina Faso et qui sont vraiment en étape alors d'expérimentation. Et on attend voir ce que ça va donner, puisque tel que vous l'avez dit, quand on parle du paludisme en Afrique, ça cause vraiment des dégâts.
Comme je le disais tantôt, chez les enfants, chez les adultes, chez tout le monde. Et c'est ce moustique, la nouvelle femelle, ce tueur en silence qui fait beaucoup de victimes et qu'on n'arrive pas à évincer. C'est vrai que très peu de pays en Afrique ont éradiqué le paludisme. Chez nous, Togo, le paludisme sévit encore et il faut encore beaucoup à faire pour arriver au bout de cette maladie.
D'accord. Merci beaucoup, Gadiel Tsonadi, d'être passé dans cette émission et pour retrouver votre journal dans les kiosques.
Dans les kiosques en pharmacie, comme je le disais la dernière fois, nous sommes en promo.
Voilà.
Promo décembre 2024. Le journal est à 500 francs.
C'est écrit à 500 francs. Justement, c'est écrit même là-dessus. Promo moins de 50%.
Voilà, parce qu'on nous a fait comprendre que le journal est encore cédé à des endroits à 1000 francs. En tout cas, la promo, c'est à 500 francs. Donc, on l'annonce pour que les gens ne l'achètent pas à 1000 francs. Le journal numérique aussi, c'est à 500 francs. Téléchargez sur le site internet www.santé-education.tg. Et pour nos jeunes, 96, 14, 97, 97.
Gadiel Tsonadi, merci d'être passé dans cette émission. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Alors, chers confrères, on va aborder nos sujets de débat ici, des sujets de débat surtout de l'actualité. Il y a déjà le journal, le journal La Dépêche, bien sûr, qui écrit ceci à la une, bien sûr, ce matin. Et ce qui m'intéresse bien, c'est la journée internationale, le journal écrit Journée internationale de lutte contre la corruption. OPS Afrique met en place des lignes téléphoniques régionales pour dénoncer les abus dans la santé. Alors, nous connaissons déjà cette organisation, l'Observatoire pour la promotion de la santé de notre cher ami Ricardo, et qui a fait sortir même d'ailleurs ce communiqué de presse pour situer un certain nombre de choses et demander surtout pour ce qui concerne surtout le droit à la santé et aussi un certain nombre de corruptions, un certain nombre d'actes de corruption qui sévissent aujourd'hui dans la santé. Le communiqué de presse où l'Observatoire est revenu là-dessus, la journée même de lutte contre la corruption, c'est le 9 décembre. Alors, Sylvestre, quand on prend ces faits aujourd'hui dans la santé, il est très important qu'on prenne des dispositions pour mettre fin à ces pratiques.
Oui, c'est l'occasion d'abord de saluer notre confrère Ricardo, qui a plusieurs casquettes aussi, puis qui est conseiller municipal donc dans la ville de Cara,
je crois. Oui, la Cousa.
Et qui a monté dans cette structure-là. Et j'ai eu à travailler avec la structure, notamment sur concernant des jeunes qui ont été mordus par le serpent, et dont il y avait eu un certain nombre donc d'éléments des médecins du corps soignant ou du corps traitant qui ont pris beaucoup d'argent chez les parents dans le but donc de leur vendre donc un produit qui véritablement aussi laisse à désirer, qui vont chercher au Bénin et tout ça. Nous avons sorti l'article, c'était au temps du ministre Midi Yawa, et véritablement des décisions ont été prises. Certains ont remboursé l'argent perçu indûment auprès donc des parents, et puis je crois que même quelques éléments du corps de la santé ont été remerciés. C'est pas l'occasion donc de nous réjouir que certains ont été remerciés du fait donc de leur comportement, mais lorsque vous êtes dans un pays de droit et que vous commettez des actes qui sont donc aux antipodes de ce qui devait être, donc vous devez aussi assumer les conséquences. Donc félicitations à cette organisation-là qui est souvent en alerte en ce qui concerne le domaine de la santé. À chaque fois quand il y a des soucis, nous travaillons ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut régler cela. Maintenant, la corruption, c'est un fait, dans le corps de la santé, c'est un fait. J'écoutais même ce matin, c'est peut-être une heureuse coïncidence, le président Talon, hein, qui disait que des médecins vendent des médicaments et qui sont au courant. Donc ça veut dire que nos chefs d'État savent en réalité ce qui se passe au niveau du bas peuple. Et au Togo, on ne peut pas me dire qu'il n'y a pas. Il y a certains qui vendent donc les médicaments de l'État, hein, pour percevoir l'argent et le mettre dans la poche. Tout cela, c'est des actes de corruption. Et nous sommes aussi mal classés, je crois. Je lisais avant-hier, nous sommes 106e, je crois, nation sur les pays enquêtés sur 46. Donc ça veut dire qu'en réalité, nous faisons pas assez d'efforts, hein, pour sortir un peu donc de la corruption, de la concussion, de tout ce qui va avec. Donc c'est l'occasion, je crois que la journée même, c'est encore dans quelques jours. Au niveau de la policière aussi, ils font également des pieds et des mains pour qu'on puisse endiguer la corruption au Togo. Mais vous savez, le risque zéro n'existe pas. Il y aura toujours ces brebis galeuses-là qui veulent devenir rapidement riches par des moyens illégaux, qui sont là et qui sont croisés également, les joueurs, qu'on ne puisse pas les dénicher. Donc voilà, c'est le panorama, si vous voulez, de la situation concernant donc la corruption et donc du côté donc des médecins. Maintenant, au niveau des médias, oui, il y en a également, hein. Il faudrait pas aussi qu'on se pense que nous sommes les plus clean, hein, de ces secteurs-là. Au niveau des médias, il y a également ce phénomène.
Finalement, la corruption est partout.
Non, la corruption est partout. Presque dans tous les secteurs. Oui, quand je parle des médias, il y en a. C'est certains qui négocient des choses et qui publient des choses en charge. Donc, il y a tous ces paramètres-là. C'est pas l'occasion, donc, d'aller dans les détails, mais c'est un fait. On le recevait également dans les médias. Donc, dans tous les secteurs, il y a la corruption. Donc, vivement que les gouvernants puissent prendre un certain nombre d'initiatives. Qu'on peut, à défaut de sortir, d'endiguer totalement la corruption au Togo, au moins, qu'on puisse être mieux classé. Hein, parce que même en haut, d'en haut, là même, il y a aussi ça. Mmh. Il y a aussi la corruption. C'est partout. C'est partout. Donc, vivement qu'on puisse serrer un peu le robinet.
Justement, hein, vous parlez de la journée, c'est le 9 décembre.
C'est le 9 décembre.
Voilà, le 9 décembre, donc c'est déjà passé, bien sûr.
C'est déjà passé.
Justement,
oui,
voilà.
C'est déjà passé.
Alors, Abbas, c'est vrai que des cas de corruption, surtout dans le domaine de la santé, et Sylvestre le disait tout de suite, que oui, pratiquement la corruption est partout, mais dans le domaine de la santé, quand on voit des médecins ou des gens quand même qui sont des praticiens de la santé, qui vendent des médicaments, alors là, on doit se poser des questions.
Oui, mais ce n'est pas que dans la santé, parce que l'association est spécialisée sur la santé, qui nous dénonce sur la corruption au niveau de la santé. Parce que quand vous prenez au niveau de la vente des médicaments, lorsque vous amenez un malade, un patient à l'hôpital, on lui prescrit des produits qu'on ne l'admise pas. Des produits sont prescrits, mais lorsque on les ramène, on les cache quelque part, on n'adduise pas ça aux malades que vous avez amenés. Et par après, c'est eux-mêmes qui revendent les mêmes produits, c'est eux-mêmes qui disent qu'on a qu'à prescrire et prescrire les mêmes produits. Lorsque vous allez à la pharmacie pour acheter, c'est pas ça qu'on vous donne. Donc c'est une corruption très très chaude, solide là-bas au niveau de la santé, au niveau des hôpitaux, de nos hôpitaux aujourd'hui, qu'il faut revoir. On en parle toujours, mais je pense pas que on arrive à éteindre cette corruption au niveau de la santé, au niveau de nos hôpitaux. Il y en a plein. Maintenant, quand vous prenez sur le plan général, je pense que la corruption, c'est un peu partout. Même la Haplusia a fait beaucoup de choses, a dénoncé beaucoup de choses au niveau même de la passation des marchés publics. C'est pour cela qu'il y a l'ARCOP qui est là pour vérifier tout l'ensemble de ces passations des marchés publics. Mais ça existe. Nous voyons comment les marchés ont été obtenus par des entreprises publiques et qui n'arrivent même pas à exécuter les travaux pour lesquels ils ont signé, ils ont eu des contrats. Donc, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent au niveau de cette corruption, malgré tous les efforts que l'État est en train de faire, mais derrière, il y en a. Et même au niveau des forces de l'ordre et un peu partout, on en voit. Et j'ai salué l'initiative du nouveau directeur général de la police nationale qui a effectué une tournée dans les commissariats du Togo pour sensibiliser les policiers, les agents de police et autres dans chaque région du pays par rapport à cette corruption et aux rackets. Et il les a appelés à la prudence et d'être très, très sûrs par rapport à ces gens de surface.
Mais oui, c'est vrai que son prédécesseur avait même d'ailleurs fait sortir des communiqués également sur ces questions alors de rackets et tout. Mais est-ce que finalement, moi, je me dis.
Oui, il ne s'agit pas de faire des sorties des communiqués.
Ah oui, bien.
Lui, il a pris le soin de descendre sur le terrain pour rencontrer les gens. Ce qui fait dire qu'il faut appliquer. Maintenant, il y a un numéro vert qui a été mis en place, le 10-14, je crois, au temps du général Yak. Quand il était ministre de la Sécurité, il y a un numéro 10-14 qui est mis en place pour dénoncer ces gens de corruption. Et c'est le même 10-14 là qui a été reconduit par rapport aux viols faits aux enfants.
Tout à fait, des violences, donc, bien sûr.
Donc, il y a la corruption un peu partout et c'est un fléau qu'il faut chercher à combattre. Et ce que nous disons, c'est que aujourd'hui, ce qu'il faut faire pour en arriver, c'est que la APLUSIA n'a pas les moyens. Quand vous voyez les activités de la APLUSIA, c'est réduit seulement à la sensibilisation de chaque secteur. De chaque secteur. Chaque secteur sociopolitique, social a été sensibilisé. Mais ça ne peut pas s'arrêter là-bas, à des sensibilisations. Il faudrait, je pense que la nouvelle constitution a donné certaines prérogatives à cette APLUSIA, parce que la APLUSIA a eu des dossiers sur la corruption qu'elle a déposé au niveau de la justice devant le procureur et jusqu'à ce jour, ça traîne. Il y a plusieurs dossiers qui ont été là et rien n'est fait. Est-ce que si on donnait, puisque c'est un juge, un magistrat toujours qui est à la tête de la APLUSIA, est-ce qu'on ne peut pas donner aussi des pouvoirs, des prérogatives à la APLUSIA d'agir, comme c'est le cas de la CRIET, ou bien on crée une autre juridiction voilà, comme la CRIET spécialisée contre les crimes économiques, tout ça là, pour que au moins on puisse dire que aujourd'hui nous avons des gens, lorsque vous prenez des gens, ils sont là, on peut les punir, parce que c'est l'impunité par rapport à ces genres de choses et le manque de la puissance que la justice même a affronté ces dossiers-là, qui fait qu'aujourd'hui, les choses continuent. Parce que on dit, si quelqu'un a fait, on ne l'a rien fait, moi aussi je vais faire. Et c'est une contagion qui est là, donc il faudrait trouver des choses pour qu'on puisse...
Comme quoi, rien ne sert de dénoncer sans...
Il faut agir.
Alors Justin... Je pense que il y a ton micro qui a un petit souci là. On va donner la parole d'abord à voilà.
C'est bon maintenant, vas-y. Oui, je voulais apporter de l'eau, mon, parce que je crois que à l'heure où nous sommes donc au studio, il y a un atelier de l'accord sur il s'agira donc de présenter le rapport des enquêtes sur les irrégularités relevées dans la gestion des marchés publics au sein des sociétés contractantes. Donc ça se tient actuellement à l'université de Lomé. Donc au sorti de cette rencontre, bon, j'espère, j'ose croire qu'on a assez d'éléments, ne serait-ce que pour mieux voir, regarder du côté des marchés publics. Parce que là aussi, c'est presque le fief également de la corruption. C'est presque le j'ose le dire, la base même de la corruption, parce que on attribue des marchés gré à gré et tout ça. Donc je crois qu'au sorti de la rencontre là qui se tient actuellement, là où on aura un rapport qui sera rendu public et que la presse peut véritablement l'avoir pour du moins se nourrir les auditeurs et effectivement nos lecteurs.
D'accord. Sur ce qui se passe dans la République. Merci beaucoup, Sylvestre. Oui, mais Justin, je vous livre un peu la conclusion de cette communiqué de presse de OPS Afrique, c'est-à-dire Observatoire pour la promotion de la santé en Afrique. Et OPS Afrique, dans son engagement quotidien, réaffirme que seul un secteur de la santé éthique et respectueux des droits de l'homme peut garantir un avenir juste et équitable pour tous. Alors finalement, est-ce que c'est en quelque sorte de l'utopie quand on prend cette cette conclusion que fait justement notre confrère par rapport à cette question de la corruption?
Non, moi, je pense que c'est parce qu'on ne sévit pas et que cette problématique de la corruption existe toujours dans notre pays. Et comme les uns et les autres l'ont dit tout à l'heure, c'est tous les secteurs qui sont concernés aujourd'hui par la corruption. Et j'ose même dire que c'est un fait qui est encouragé par le sommet même de l'État. Et lorsque vous revisitez dans les dernières périodes tout ce qui s'est passé, notamment pour l'attribution des marchés publics, comment ça a évolué, tout et tout, là où nous sommes aujourd'hui, et vous allez peut-être oser dire que c'est les premiers responsables du pays même qui sont à la base de ces corruptions-là. Mais là où le bas blesse, c'est que lorsqu'on note cette anomalie ou ce phénomène encore dans le domaine de la santé, dans le secteur de la santé, c'est là où ça fait mal. Parce que lorsqu'on prête serment, c'est pour sauver des vies. Maintenant, si on court derrière l'argent, on veut s'enrichir très rapidement et qu'on passe par tous les moyens pour en arriver, surtout la corruption, c'est là où ça fait mal. Donc, il n'y a plus d'autre solution à faire que de sévir, de prendre des mesures pour sanctionner, je dis sanctionner lourdement, sévèrement, ceux-là qui sont donc des corrupteurs et des corrompus. Donc, c'est moi, je pense que c'est le seul moyen qui peut nous sortir de cette affaire, parce que tout à l'heure, Abbas faisait allusion à ce qui concerne les corps habillés. Mais vous circulez, vous allez voir. On était ensemble la fois, la dernière, je vous fais montrer une photo, et spontanément, vous avez également vu les agents qui courent derrière les taximens. C'est parce que à un moment donné, ils ont mis des bagages qu'on suppose être surchargés, et on court. En contrepartie, c'est pour prendre l'argent et partir. Est-ce que ces frais, ces sommes-là rentrent dans la caisse de l'État? Je dis non. Non, c'est autant d'éléments. Vous allez au niveau de nos contrées, vous allez voir ce qui se passe. Donc la corruption, c'est un phénomène, c'est un fléau, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Mais moi, je pense que pour en arriver et véritablement à l'éradiquer, il faut forcément sanctionner et ceux-là qui sont les auteurs. Et je fais également observer que vous allez aujourd'hui au niveau de la justice, allez-y voir ce qui se passe. Non seulement les communiqués sont sortis, non seulement on a interdit aux gens de faire la démarche ou les démarcheurs de contribuer à tout ce qui se passe au niveau de la justice, mais allez-y aujourd'hui voir ce qui se passe. Donc vous ne pouvez pas comprendre. Donc c'est un phénomène qui est là, et moi je dis que tout ce qui se dit, c'est le discours, mais la volonté politique n'y est pas véritablement. Le classement dont on parle, Béni, tout à l'heure, le Togo est classé 106e sur 147e, je crois, ça voudrait dire que notre rang ne nous favorise pas. C'est tellement qu'il va y avoir des avantages que nous n'aurons pas. Et pendant ce temps, c'est les citoyens qui souffrent. Donc je pense qu'il faut véritablement que les sommités puissent prendre le taureau par les cornes et voir dans quelle mesure il faut sanctionner le Douma.
D'accord. Alors, ça nous amène à parler aussi de la question des droits de l'homme. J'en parlais déjà à l'entame alors de l'émission, dans mes mots introductifs. C'est vrai, hier, 10 décembre, c'est la journée réservée même à la célébration des droits de l'homme. Mais on doit se poser la question de savoir quel est l'état des droits de l'homme aujourd'hui dans notre pays. Sylvestre, quel est l'analyse que vous faites alors des droits de l'homme chez nous?
Non, il faut dire que le tableau n'est pas reluisant. Il suffit juste de regarder du côté des détenus politiques pour s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on peut appréhender quelqu'un et qui est là, et qui fait 6 ans en prison, sans qu'il ne puisse le passer devant donc, le juge, et qu'on le juge, qu'on le condamne. Il y a des faits, vous allez, des gens qui ont purgé même, c'est-à-dire que qui font plus de 7 ans, 8 voire 10 ans en prison, sans qu'ils ne soient jugés, sans qu'on ne puisse les condamner. C'est-à-dire que des gens qui, supposons qu'ils ont commis un délit et dont la peine maximale peut-être est de 5 ans ou de 6 ans, mais les gens font plus que ça. C'est-à-dire que sans qu'ils ne soient condamnés, ils font plus que les peines réservées à ces gens donc de crimes ou de délits au sein de la République. Maintenant, au-delà, je vais parler donc de ces jeunes de Tigre Révolution qui sont là. Certains sont décédés même en prison et tout, sans qu'ils ne soient jugés et tout. Donc, lorsqu'on évoque la question des droits de l'homme, tout cela touche, surtout cette dame-là, Madame Leila Taba ou Nambea, voilà, qui est une femme qui allait et qu'on est venu arrêter un bon matin, qu'on jette donc en prison. Et des gens qui sont allés au-delà des cours donc du Togo, qui ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO, qui leur donne droit, qui demande à l'État togolais de les libérer, mais ils sont encore là. C'est-à-dire, on condamne l'État togolais du fait donc de ces personnes qu'ils ont saisies. Or, l'État a souscrit à tous ces traités-là, la Cour de justice qui condamne l'État togolais de libérer ces personnes-là, mais ils sont encore en prison. Vous voyez tous ces faits-là maintenant. Au-delà, il y a d'autres situations au sein de la République où des gens, pour un oui ou pour un non, on les ramasse et puis on les jette en prison sans autre forme de procès. En parlant aussi, je pense également à ce jeune Ilando Togolais, Abdoul Aziz Gouma, un jeune Ilando Togolais qui est rentré au pays, qui est dans le cadre de son business et tout, et qu'on soupçonne d'avoir prêté main forte à des jeunes du PMP, on le prend un bon matin et puis on le met en prison. Un monsieur qui est rentré bien portant en prison aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant. Vous voyez un peu? Est-ce que la justice c'est pour détruire la vie de quelqu'un ou pour corriger, pour punir? Un jeune qui est là, qui est dans la fleur de l'âge bien portant, qui est rentré en prison aujourd'hui, il est dans un fauteuil roulant. Je viens même de dire que certains sont décédés sans qu'ils ne soient condamnés, sans qu'on ne sache pourquoi ils ont été arrêtés. Vous voyez, lorsque vous voyez tout ce tableau-là de des droits de l'homme, je me dis, il y a quelques jours, le Front touche pas ma constitution, a écrit une lettre au ministre des droits de l'homme pour le saisir sur un certain nombre de faits. Silence radio. Vous voyez tout ce tableau-là, je crois que nous sommes encore loin du cap et puis il faudrait qu'on puisse revoir véritablement la gouvernance. Or, c'est sur ces critères-là que nous peinons très souvent donc, à valider un certain nombre d'indicateurs. Au niveau donc du MCC et tout ça, vous voyez surtout sur les droits politiques et tout ça, le Togo n'arrive jamais à valider ces indicateurs. Parfois, c'est vrai que on arrive à valider 14 indicateurs. Je crois qu'il y a quelques jours, ils ont validé 16. Mais on peut aller au-delà si, au niveau des droits de l'homme, des droits politiques, le Togo est un bon élève. Enfin, c'est tout cela qui nous pénalise au niveau donc de ce projet-là où nous n'arrivons pas à avoir donc le jackpot, comme le dit pour des projets sociaux au sein de la République. Donc voilà, le tableau n'est pas beau, c'est pas reluisant, mais est-ce qu'au niveau des gouvernants, est-ce qu'ils se posent des questions? Est-ce qu'ils ont envie de mieux faire? Si chaque année c'est la même chose, bon, parfois on se demande pourquoi, quoi. Parce que est-ce qu'ils ont envie véritablement de changer quelque chose? C'est ça la question.
D'accord, oui. Ah ben, c'est vrai que tout récemment, il y a le département d'État américain qui a fait sortir même un communiqué. Et dans ce communiqué, le département a mis en exergue les violations des droits de l'homme au Togo. Et Sylvestre l'a dit, c'est en quelque sorte le talon d'Achille alors de nous. Et c'est ce qui fait même d'ailleurs qu'on n'arrive pas à valider un certain nombre alors d'indicateurs. Alors finalement, pourquoi c'est si difficile pour nous de respecter les droits de l'homme?
Voilà, c'est un peu difficile à dire parce que on parle de l'état de droit. On a créé des institutions pour le respect de cet état de droit. Si bien que je vois que la CNDH qui est créée par rapport à cette violation des droits de l'homme aussi reçoit des plaintes sur les violations des droits de l'homme. Ils travaillent beaucoup. Et pour pouvoir sortir, au moins amener les autorités à accepter le respect des droits de l'homme. À l'occasion même de cette journée d'hier du 10 décembre, il y a la CNDH qui a fait des propositions, qui a sorti une liste de propositions pour faire respecter les droits de l'homme. Donc il ne faut pas qu'on s'arrête seulement sur les droits. Il y a le droit à l'éducation, le droit à la santé, beaucoup de droits. Il y a droit à l'éducation, droit à la santé. Maintenant, c'est le point sur lequel nous sommes en train de nous battre, c'est sur les violations des droits de l'homme.
Oui.
Les violations des droits de l'homme. Parce qu'on a plusieurs droits qu'il faut qu'on respecte également, comme je l'ai dit. Le droit à l'éducation, est-ce que c'est respecté là? Le droit à la santé, est-ce que toute la population a droit à cette santé? Est-ce que tout le monde a droit à aller à l'éducation dans ce pays? Maintenant, le nœud du problème, c'est sur le plan, lorsque les gens sont pris au niveau de nos commissariats, au niveau de la gendarmerie, est-ce que leurs droits sont respectés jusqu'à ce... Parce que pour le moment, on dit que lorsque quelqu'un est pris, il est toujours... Son innocence, il est un présumé coupable.
Il y a la présomption d'innocence.
Cette présomption le couvre jusqu'à ce qu'il soit jugé. Mais ici, j'ai l'impression que...
Jugé, condamné.
J'ai l'impression qu'au niveau des premières choses parajustice, là, il y a ces droits-là qui sont violés jusqu'à arriver au niveau de la prison civile de Lomé. Donc, il faudrait que je... J'ai dit tantôt que la CNDH qui est en train de lutter, ça fait de toute façon prévenir ces droits de l'homme, prévenir ces actes qui mettent en péril le respect des droits de l'homme, sont en train... Ils ont fait même des propositions au niveau aux autorités pour que ces droits ne soient plus respectés à l'occasion de la journée des droits de l'homme.
D'accord, merci. Alors, justement, c'est vrai que pour ces cas de violation des droits de l'homme, finalement, on n'écoute même plus des organisations de la société civile, surtout qui sont dans la défense alors des droits de l'homme, se prononcer comme cela se doit. Est-ce que finalement, elles sont fatiguées aussi?
Non, pas du tout. Pas du tout. Je n'ai pas cette impression-là. Puisque, pas plus que, je ne sais pas, hier j'ai eu à écouter le maire pasteur de Komi, qui est premier responsable du mouvement Martin Luther King, qui s'est prononcé sur le sujet. Et j'ai eu à écouter également, entre-temps, le président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, maître Célestin
Agbogan,
Kaou Atcholi. Ils sont pleins à se prononcer sur ces questions-là. Sauf que peut-être lors de la célébration, est-ce que quelque chose a été organisé en amont ou en aval par rapport à cette célébration, peut-être que là on peut s'interroger. Mais sur la question des droits de l'homme, moi, je pense que ça varie selon les pays. Vous ne pouvez pas parler de droits de l'homme dans une dictature. Entre la dictature et les questions des droits de l'homme, il y a une grande différence. On ne peut pas nous faire croire que nous sommes dans une démocratie et que, quelque part, lorsque vous comparez, ce n'est qu'une démocratie, comme quelqu'un a l'habitude de le dire. Les institutions sont en place, mais il n'y a qu'une seule qui prend la main sur toutes les institutions. Et lorsqu'il s'agit des questions politiques, vous n'êtes pas le bienvenu. C'est ça même la problématique. Donc, dans une dictature, et Abbas l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs droits. Il n'y a pas que les droits politiques. Il y a les droits économiques, il y a les droits sociaux, il y a les droits de la santé, les droits civiques. Mais la question de savoir aujourd'hui, est-ce que tous ces droits-là sont respectés? Mais ces droits ne sont pas respectés. Pourquoi? C'est parce que quelque part, on note l'absence d'un certain nombre de facteurs qui en réalité doivent permettre à la bonne marche de la société. Et au sommet, on parle de la politique. Si la politique est malade, ça veut dire que c'est tout le pays qui va mal. Mais la politique est là et les gouvernants n'entendent pas qu'on les critique. Et le cas de notre compatriote qui est rentré au pays, qu'on a arrêté, qu'on a jeté en prison. Pour quelles causes? Moi, je pose la question, je cherche, je n'arrive pas à comprendre. J'ai eu l'occasion de poser la question à maître Célestin Agbogan la fois dernière sur le cas de madame Feubertin Agba, la Françoise et ses co-accusés qui sont jetés en prison. Pour quel fait? Personne ne le sait. Maintenant, aujourd'hui, sur des questions politiques, combien sont ces prévenus-là qui sont encore dans le lien de la détention dans nos prisons d'arrêt et dans les maisons d'arrêt du Togo? Personne ne le sait. Bien sûr, les organisations sont là, ils font des pieds et des mains, ils demandent à la libération. Tout à l'heure, vous faites allusion de ce rapport sorti le rapport du département américain qui date de 2023, qui confirme effectivement qu'il y a des détenus politiques au Togo. Dans ce rapport, on note un certain nombre d'anomalies à l'égard de ces gouvernants-là. Ils sont là, ils font fi comme si rien. Quand l'occasion leur est donnée, mais on vocifère, on fait croire à l'opinion internationale qu'il n'y a pas de détenus politiques au Togo. Mais les faits sont là. Les gens sont malades, ils sont pleins au niveau du cabanon. Ils sont malades, ils meurent en détention. Mais ce sont des humains quand même. Il faut avoir l'essence de l'être humain. Malheureusement, ça fait défaut. Donc moi je dis, tout ce qu'on nous fait croire comme nous sommes dans une démocratie, la démocratie n'y est pas. Nous sommes dans une dictature. Il faut avoir le courage de le dire. Lorsque c'est pas le monarque là, il décide sur tout ce qui lui passe par la tête. On viendra peut-être du jour au lendemain venir vous arrêter et sans que personne ne crée de...
D'accord. Alors, c'est vrai que nous parlons de ce rapport du département d'État américain et vous avez titré entre-temps hein, sur le sujet arrestation et détention arbitraire, violence physique, punition et torture, restriction à la liberté de la presse, système judiciaire contrôlé et corrompu. Le rapport 2023 du département américain dépeint le Togo. C'est bien ce que vous avez écrit. Oui, mais c'est vrai que quand on prend aujourd'hui l'État qui normalement doit avoir aussi la garantie hein, de préserver surtout les droits de l'homme et aussi de préserver aussi la cohésion sociale quand il doit y avoir des dérapages au sein de la société, on se dit, mais est-ce que ce n'est pas paradoxal un peu ce rôle alors de l'État, parce que on n'arrive pas trop à trouver la ligne de démarcation, en ce sens que je le dis parce que tout récemment, il y a, quand nous allons au Kenya, il y a le président William Ruto qui a déclaré par rapport surtout aux droits de la femme ou surtout aux violences faites aux femmes qu'on doit préserver vraiment les droits de la femme. Mais hier, les femmes ont décidé de faire une manifestation pour mettre en exergue leurs droits. Et on a envoyé quand même des forces de l'ordre pour qu'on arrête alors ces manifestations. Mais vous ne voyez pas qu'il y a un peu de contradiction dans ce que l'État fait pour ce qui concerne la préservation de la paix et aussi le fait qu'il doit préserver aussi les droits de l'homme.
Oui, malheureusement, à la tête de nos États en Afrique, il n'y a que des spécialistes du laïus. C'est des gens qui n'ont que de beaux discours, mais en réalité, c'est rien du tout. C'est juste pour flatter. C'est juste pour flatter. Ici, au Togo, on dit non, on fait dans la promotion de la femme et tout ça. Demandez aux femmes de sortir aujourd'hui pour crier que, bon, elles ont faim. Vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez ce qui va se passer. Donc, en réalité, c'est-à-dire que entre le discours et la réalité, il y a un gros fossé. Tout à l'heure, vous avez parlé donc du rapport du département américain, le rapport 2023 qui est sorti en mars 2024, mais 33 pages sur le Togo. 33 pages des États-Unis sur le Togo. Et lorsque vous lisez tout ce rapport-là, vous posez mille et une questions. Mais est-ce que nous sommes dans une démocratie ou dans une dictature ou dans une démocratie ou dans un vernis de démocratie ou dans un maquillage? C'est-à-dire que vous posez mille et une questions. 33 pages sur le Togo. Et lorsque vous lisez un peu hein, les éléments, une justice, on parle donc de justice corrompue, contrôlée. Mais bien avant, tout à l'heure, je me posais la question de savoir si les gouvernants veulent véritablement changer. Lorsque vous prenez le rapport du HCDH de 2013, nous sommes en 2024, hein, le rapport du département d'État américain est sorti en 2023. Mais je parle de 2013. Le rapport du HCDH en 2013, il est déjà dit dans ce rapport qu'au niveau de la justice, certains magistrats demandent les orientations du gouvernement avant de savoir
quelle décision prendre.
Et il est dit que surtout sur les décisions politiques, les affaires politiques, c'est-à-dire les juges demandent au gouvernement
son avis,
qu'est-ce que je dois faire sur le sujet. Le rapport du HCDH 2013, déjà dans ce rapport, il est dit, et de 2013 à 2023, ça fait combien? Ça fait 10 années. Et les États-Unis reviennent dire la même chose. Vous voyez un peu? C'est pourquoi je me pose la question si on veut véritablement changer. C'est-à-dire que les années passent, les mois se succèdent, tout repasse, mais c'est comme si nous sommes dans un statu quo et on persiste dans cela. On ne veut véritablement pas changer les choses. On me dit qu'il y a un ministère des droits de l'homme. Oui, nous avons un ministère des droits de l'homme. Et dans un gouvernement, c'est le même gouvernement qui est souvent accusé donc de procéder à des arrestations arbitraires, de procéder à des violences physiques et tout ce qui est dit dans ce rapport-là. Mais qu'est-ce que le ministre des droits de l'homme peut faire en étant dans un gouvernement qui est impéglé? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est pourquoi je dis que parfois il y a des sorties juste pour flatter. Bon, on amuse un peu la galerie, oui, bon, ministère des droits de l'homme, oui, on a un ministère des droits de l'homme, mais qui fait quoi? Qu'est-ce que ce portefeuille-là, depuis que ce ministère est là? Bon, peut-être qu'en le disant, il m'écoute, il va organiser une conférence de presse, il va nous dire réellement ce qu'il a fait depuis qu'il a pris ce portefeuille-là. D'accord. Voyez-vous, donc, il y a tellement donc, de choses à corriger au sein de la République si nous voulons véritablement être mieux lotis dans les pays de démocratie. Encore que je ne sais pas dans quel pays nous sommes, mais si c'est... Je me pose des questions. Quoi.
D'accord. Peut-être que vous aurez la réponse à votre question par après. Alors, oui, Abbas, c'est vrai que quand on prend la nouvelle constitution, la constitution de 2024, c'est-à-dire de la 5e République, on ne voit même pas, quand on lit toute la constitution, on ne voit même pas les traces des droits de l'homme, des questions de droits de l'homme dans la constitution. Et il semble que c'est annexé à ce... Il y a un document qui sera plutôt annexé dans lequel on aura plus alors de les questions alors de droits de l'homme. Est-ce que ça ne veut pas dire peut-être que les droits de l'homme sont relégués au dernier plan?
Oui, ben on peut dire ça, mais on ne peut pas dire ça, oui ou non, parce que quand vous prenez la Constitution, vous la lisez, la Constitution aussi, c'est des annexes. Quand vous prenez un document, on vous renvoie aux annexes, c'est que ce n'est pas à l'écart, ce n'est pas écarté quelque part. Il faut aller voir ça. Moi, j'ai lu la Constitution, j'ai vu les annexes. J'ai lu ce qui concerne les droits de l'homme. Donc, ce n'est pas relégué au second plan. Si c'est relégué au second plan, on ne peut pas dire qu'on va garder la CNDH, on va garder le ministère des droits de l'homme, quoi que ce soit. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faudrait que ces institutions qui sont mises en place par rapport à la lutte au combat contre les droits pour la lutte contre les droits de l'homme, que ces institutions soient plus efficaces et qu'elles travaillent. Qu'elles travaillent sur le coup. Moi, je me dis, nous sommes en apprentissage par rapport à la démocratie dont on parle. On n'est pas encore en pleine démocratie. On est en apprentissage.
Et mais on va continuer par apprendre jusqu'à quand?
Il faut continuer par apprendre parce que les autres pays européens qui critiquent maintenant ont passé des années avant de faire ça. Les États-Unis, où on fait des rapports maintenant pour mettre le Togo dans des... que c'est troisième, comme quelième place nous occupons. Aux États-Unis, vous arrivez, on tue les gens. On tue les Noirs. Le racisme existe. Mais entre eux, là, ils n'ont jamais produit un rapport pour dire qu'il y a violation des droits de l'homme là-bas. Donc il faudrait que, à notre niveau, dans nos pays ici, dans nos pays africains, qu'on ait la volonté vraiment de faire respecter les droits de l'homme, parce que par rapport au fait qu'on a mis des institutions de la République et on a consigné ça dans nos constitutions, dans nos textes, que les droits de l'homme sont d'une importance capitale et que c'est égalitaire. Tous les hommes naissent libres et égaux devant la loi et devant Dieu, qu'on puisse les respecter. Ces institutions qu'on a mises en place, qu'on leur donne le soin, les mains libres pour travailler. Je vois que depuis quelque temps, au niveau du ministère de la Justice, les choses sont en train d'évoluer avec le nouveau ministre qui est arrivé par rapport à ces actes qu'il est en train de poser, surtout au niveau de la justice. Parce qu'auparavant, on a vu que on parle des réformes au niveau de la justice. Ça ne s'est arrêté que seulement au badigeonnage et au pavage de l'enceinte et des bâtiments. Et ça a permis à certains magistrats qui sont là, comme on le dit, il y a eu des dénonciations qui ont été faites mais par le président de la Cour suprême sur ces actes qu'on pose. Et c'est là que je dis, pour arriver à des objectifs que nous sommes fixés, il faudrait qu'il y ait une volonté politique pour atteindre ces objectifs, pour qu'on puisse dire que nous sommes en train de lutter contre les droits de l'homme. Parce que c'est une longue haleine.
D'accord.
La lutte contre les droits de l'homme, c'est une lutte de longue haleine.
De longue haleine. Merci beaucoup, Abbas. Oui, Justin, c'est vrai que d'aucuns disent que nous sommes plus réputés dans les beaux tests. On écrit des beaux tests, mais quand il s'agit alors de respecter ces tests, on ne nous trouve pas toujours là. Quand on prend le respect des droits de l'homme, c'est des tests quand même que nous nous sommes donnés, et il faut respecter ces tests.
Mais tout à fait. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à la fameuse constitution de la 5e République sur des questions de droits et de liberté. Quand vous prenez la constitution de 1992, publicitée par le peuple togolais, vous allez comprendre que ces questionnements-là sont pratiquement dans les premiers chapitres de cette constitution. Pourquoi aujourd'hui on a pensé le reléguer et dans un volet d'ANES. Allez-y comprendre. Puisque en réalité, lorsque vous voulez qu'on construise un état de droit, on parle du droit. Les questions de droit doivent être des questions primordiales.
Mais là aussi, est-ce qu'on ne vous dira pas que, étant donné que les droits de l'homme sont fondamentaux, il est très important quand même qu'on ait tout un document pour cela et que ça ne suffit pas juste alors de l'avoir dans la Constitution.
Mais vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous prenez la Constitution de 1992, le chapitre qui est réservé pour les questions de droit et de liberté, vous allez pratiquement les retrouver. Il n'y a pas qu'une question de dire les questions de c'est une question de fonctionnement et de l'institut de l'indépendance de l'institution. Vous avez vu dans les dernières périodes comment la Commission nationale des droits de l'homme a évolué. Peut-être qu'aujourd'hui on me parlera qu'il y a un changement par rapport aux pratiques et antérieures. Je peux l'admettre. Mais sur ces questions-là, telles que dénoncées par les organisations de défense des droits de l'homme aujourd'hui, est-ce que le pouvoir prend soin de tenir compte de cette contestation, de ces remarques, de ces observations-là? Moi, je ne le pense pas. Puisque vous prenez, par exemple, la même constitution dont vous faites cas, ou des questions qui sont liées aux manifestations publiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore parler de la manifestation publique au Togo, telle que la loi est à issue mesure-là? Vous n'avez pas le droit de marcher devant les ambassades, sur les nationales numéro quoi, je ne sais pas quoi. Là. Cette condition-là, vous pensez qu'on nous parlera d'un état de droit? Je ne le pense pas. C'est une question de volonté politique. C'est vrai, on fait des comparaisons en disant que mais aux États-Unis, on tue les gens, les droits sont violés à l'heure. Mais moi, je préfère plutôt qu'on tienne compte des exemples les meilleurs, les pays qui ont véritablement bondi, qui ont mis sur le pas les fondamentaux de la démocratie. Et ces fondamentaux qui ne sont que le respect des droits humains. Mais lorsqu'on ne respecte pas les droits humains, on ne peut pas parler de la démocratie. Et sur cette base-là, moi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en face d'un régime qui, au-delà des considérations, ne veut pas quand même céder sur un certain nombre de questionnements. Ou sur un certain nombre de choses. Les revendications sont là. Les problématiques sont là. Apporter des solutions, c'est là où se posent les critiques aujourd'hui.
D'accord.
Donc, si véritablement on a cette volonté-là, moi, je pense que non seulement le fait que cette constitution, la fameuse qui est imposée, qui est pleurée d'ailleurs, qui est contestée dans l'opinion, qu'on tienne compte également d'un certain nombre de réalités qui sont des réalités incontournables vis-à-vis de l'actualité, vis-à-vis de ce que le peuple togolais vit.
Alors, entre les droits de l'homme et la politique, il n'y a qu'un seul pas. Hein. On va parler politique rapidement. Sylvestre, vous vous intéressez au Ghana et à la une de votre journal, aux élections même d'ailleurs générales tout récemment au Ghana, avec le retour au pouvoir de John Dramani Mahama, bien sûr. Et vous écrivez, Ghana, 5 présidents en 20 ans, le Togo de Faure Gnassingbé, curiosité en 20 ans.
Oui, je crois que ça se passe de tout commentaire, parce que lorsque vous prenez donc nos voisins de l'Ouest, le Ghana, nous douterons même avant donc de penser que c'est autre chose qu'une démocratie. Et nous avons véritablement pris donc le repère de 2021 de 2001 à 2009. C'était donc le président John Adjekoum Koufo qui a remplacé donc Ronlis, qui a tenu donc la baraque. Et donc de 2001 à 2009, entre-temps en 2005, le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé, donc il a été homologue donc du remplaçant de Ronlis pendant 4 ans. Et après, le Koufo est parti remplacé par John Atamis qui malheureusement est décédé donc au cours de son mandat. Et le restant du mandat a été assumé par son vice-président à la personne de John Dramani Mahama, qui a fini. Il a fini le mandat et il a été battu aux élections par Nana Edankwa Akufo-Addo, qui a fait 8 années. Aujourd'hui, il est parti. Son dauphin, qui est Baromia, a été donc battu par Mahama. Vous voyez que c'est ça devient juste, c'est beau, quoi. Et Mahama qui est revenu, il va faire donc son dernier mandat. Il va partir bientôt. Quelqu'un d'autre viendra. C'est cela la démocratie. Maintenant, ici, depuis 2005, on s'incuisse, on s'impose au Togolais. On est là, on ne veut pas partir. Pendant 20 ans, et puis la situation est morose, rien ne va, et tout le monde a faim, mais tu ne peux même pas oser le dire. Tu sors, on te tabasse, tu sors, on te prend. Mais vous voyez, c'est ça la curiosité. Et puis, j'ai l'impression que nous sommes même devenus une risée au niveau donc, de, de la sous-région. C'est juste une anecdote. J'ai vu une vidéo que bon, beaucoup d'autres aussi, sûrement que vous avez vu cette vidéo-là, où on montrait le drapeau du Togo à un jeune arabe là, et qui se présentait, dit non, oui, ça, c'est le pays le plus maudit de l'Afrique. Vous avez vu la vidéo là?
On va pas en arriver là quand même.
Non, c'est juste. Je voulais faire passer par là pour dire. C'est-à-dire que le pays offre ses potentiels, ces occasions là, donc à certains de se moquer de nous. C'est en fait une moquerie. Je voulais pas dire que oui, nous sommes un pays le plus maudit de l'Afrique. Non. C'est ce que le Génard dit. Mais en prenant le drapeau togolais pour le dire, pourquoi il ne l'a pas dit pour le Ghana? Pourquoi il ne l'a pas dit pour le Maroc? C'est-à-dire qu'on offre ces occasions-là pour se moquer de nous, pour railler le Togo. Ils sont devenus la risée de tout le monde aujourd'hui. On est là et puis en 20 ans, il n'y a pas grand-chose, mais on s'excuse, on veut toujours être là. On modifie une constitution, on fait une constitution personnalisée, on veut devenir... parce qu'on a été président pendant 20 ans, maintenant on est fatigué d'être président de la République, on revient pour reprendre président du Conseil des ministres, on va encore continuer dans ça pendant des années. Pourquoi? Tout cela, véritablement, c'est une curiosité au niveau donc de la sous-région et au niveau de l'Afrique. Tout, si vous prenez sur les 50 dernières années, c'est le Togo qui n'a pas eu d'atteinte démocratique. Sur les 50 dernières années, même au Cameroun, on dirait Paul Biya qui fait 40 ans au pouvoir. Mais Paul Biya est venu remplacer quelqu'un d'autre. Et dans les conditions qu'on connaît, vous prenez au Théodoro Obiang-Nguema, je crois, de la Guinée équatoriale. C'est l'un des plus vieux aujourd'hui. Mais la manière dont ils sont arrivés. Et ici, c'est toujours le Togo, quoi. C'est une curiosité.
Alors, Abbas, pour ces questions d'élections au Ghana, qu'est-ce que nous devons apprendre? Quelles leçons allons-nous tirer? Parce qu'on a dit quand même que, déjà avec ce qui s'est passé au Ghana, c'est la démocratie qui s'est exprimée chez nos voisins du Ghana.
Non, le problème de la démocratie au Ghana et de la tenance, il faut saluer Rawlings. Il faut saluer le capitaine d'aviation J.J. Rawlings qui est venu.
Jerry John Rawlings.
Moi, j'étais là-bas au moment où Jerry John Rawlings est arrivé dans les années 80 pour stabiliser les choses. Et il a fait exécuter tout le monde qui ne voulait pas s'entendre. Mais par rapport à certaines situations et de son vivant, après une élection, il y avait eu un problème où un président voulait refuser les résultats.
Le verdict des urnes.
Et Rawlings l'a mis en garde. Et depuis cette année-là, tout se déroule bien au Ghana par rapport aux élections. Même pour ces élections, il y avait certains jeunes qui ont été arrêtés parce que l'organisme chargé des élections n'a pas pu donner les résultats de certaines localités parce que ces jeunes-là sont allés détruire les urnes là-bas. Il y a près d'un million d'électeurs dont la voix n'ont pas été comptabilisée. Donc, ce qui veut dire qu'eux autres, ils ont déjà la majorité de ceux qui sont de ceux qui ont voté des votants et également le président sortant, son challenger, le vice-président,
Dr.
Baoumia, a déjà reconnu la défaite. Et immédiatement, ça s'est arrêté là et les contestations n'ont pas commencé. Sinon, on a arrêté des jeunes de NDC. Ils disaient que c'est NDC. Maintenant, les gens disent d'ici que c'est gens de CPP, MPP qui font ça. Donc aujourd'hui, il faudrait... Oui. Que nous aussi, on puisse s'inspirer de ces genres de situations.
Tout à fait. Alors oui, Justin, c'est quoi la leçon à tirer?
Le Togo, c'est une curiosité. Moi, je parlerai de la civilité ghanéenne. Si vous dites dans un pays que vous faites la démocratie pour refuser la tenance politique, c'est du mensonge. Parce que la tenance politique est le socle de la démocratie. Donc, si vous refusez la tenance politique, il y a une famille qui est au pouvoir, le fils remplace le papa... Les deux font pratiquement 58 ans, si ma mémoire est bonne aujourd'hui. Et par rapport aux réalités que nous avons sur le continent, mais il y a lieu de se poser des questions. Je terminerai en disant ceci. Lorsque M. Loïc Le Floch Prigent a été arrêté dans cette affaire de escroquerie internationale, à la suite, il a sorti un livre.
Mouton noir.
Très bien. Il comparait le Togo à la Corée du Nord. Mais j'ai eu la chance de lire... Ce livre-là, Mais mon frère, j'avoue que, sincèrement, au-delà de tout ce qu'on nous fait croire, que ce soit à l'interne ou à l'international, le Togo constitue ce qu'on appelle aujourd'hui la risée au niveau de l'opinion internationale. Qu'on ne nous trompe pas. Tous ceux-là qui ont des intérêts ici, mafieux ou non, ce sont eux qui viennent ici faire croire aux gens que voilà, le Togo est un bon pays et autres. Nous vivons dans un pays malade. Nous vivons dans un pays anormal. Parce qu'on refuse l'alternance politique. On passe par tous les moyens pour nous imposer une constitution. Et nous n'avons pas le droit même de manifester. C'est ça la réalité du Togo. Donc, qu'on le veuille ou non, les Ghanéens ont encore montré qu'ils ont ce qu'on appelle la civilité. Et cette civilisation-là dépasse même les normes. Et aujourd'hui, ils sont appréciés un peu partout.
Ce qui a été un peu surprenant, c'est que, alors on voit 19 millions de personnes qui ont été même d'ailleurs à cette élection. Si je veux bien parler du corps électoral, oui, mais déjà au lendemain, on a eu les résultats. Et des résultats et même pas de contestation.
C'est une question politique. Enfin, c'est une question de volonté politique.
Pas de contestation.
Dans le grand Nigeria, ça a été observé. L'appareil qui a été utilisé là, lors de ces élections-là, on l'a vu. C'est pratiquement les mêmes matériels qu'on a utilisés ici. Et très rapidement, vous avez, c'est tout comme tout le système informatisé, en fait. Vous vous positionnez, vous mettez le doigt sur le candidat de votre choix, et puis c'est comptabilisé. Et vous avez vu, les images circulent sur la façon dont les gens travaillent au niveau de leur CENI, entre guillemets, là-bas. Vous
avez vu. Le dépouillement a été fait aux yeux.
Le Togo, je rappelle qu'en 2010, on a voulu aider également le Togo à travers le système de Visa.
Si, justement.
Et on évoluait au-delà de plus de 70% de dépouillement. Mais d'un seul coup, on a bloqué le Vsat. Et le Sénégalais, à l'époque, n'a pas compris. Donc, c'est pour dire tout simplement que nous sommes dans un pays et les gens n'ont pas la volonté de quitter le pouvoir. Et nous sommes aujourd'hui dans la merde, c'est tout.
Juste un dernier mot. Regardez la manière dont le camp Indici a fait la compilation. Ils avaient tout. Mais l'ANC avait fait la même chose en 2010. Ils sont partis ramasser cela
à Cézanne. Alors, nous allons en arrêter là pour ce qui concerne le débat. Et maintenant, nous allons vous donner la parole. Vous qui nous écoutez, vous savez que le principe de l'émission, c'est aussi ça. Vous pouvez intervenir dans cette émission à travers nos deux numéros, 90 86 35 35 91 36 63 75 et aussi sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5
Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75 et également nous écrire sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va.
C'est monsieur?
C'est Arès, j'appelle Dadaulato.
Ah, monsieur Arès, vous nous appelez Dadaulato, allez-y.
Sur le problème des droits de l'homme, quand je lègue tout ce qui est droit de l'homme dans les annexes, et les gens viennent nous convaincre qu'on ne veut pas nous suivre les droits de l'homme dans ce pays, bien ça reste la même chose que dans l'ancienne constitution. Et vraiment, je ne suis pas d'accord. Quand on donne les exemples des États-Unis, vous savez, tous ceux qui ont l'habitude de défendre des régimes d'un endroit veulent convaincre tout le monde entier que, en fait, c'est la même chose qui se passe ailleurs. Et là, on va nous dire qu'aux États-Unis, il y a du racisme. Bien sûr. Mais est-ce que ce racisme aux États-Unis est organisé au niveau de l'État? Est-ce que c'est l'État qui organise le racisme? Ce sont des individus qui sont racistes. Et là, lorsque quelqu'un se comporte mal, il y a une justice libre qui travaille. Il y a des enquêtes. Et lorsqu'il y avait eu ce problème d'assassinat contre le président Donald Trump, il y a des enquêtes. Chez nous, est-ce qu'il y a la même chose? Est-ce qu'on peut débarquer aux États-Unis au siège d'un parti, tabasser les gens? Est-ce qu'on dit qu'il doit avoir enquête, mais après rien? Non. Est-ce que les prisons aux États-Unis, c'est la même chose? C'est tout ça là qui fait le droit de l'homme. Est-ce qu'on refuse les manifestations, la liberté d'expression? Les journalistes, on les emprisonne, on les arrête. Un journaliste qui dit quelque chose qui n'arrange pas le pouvoir, on le met en prison. Ça se passe aux États-Unis. Donc, quand on donne des exemples comme ça, je pense que c'est vouloir nous convaincre que, en fait, Il n'y a pas de démocratie dans le monde. Maintenant, s'il y a des démocraties, il y a des gens qui travaillent. Il faut qu'on dénonce des choses, il faut faire améliorer les choses.
D'accord, merci beaucoup Arès pour votre intervention. 90-86-35-35, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamava.
Oui, Nyamava.
Allez-y.
Oui, je remercie mon prédécesseur, c'était ma idée. Donner ce genre d'exemple-là. Bon, il s'agissait de la campagne de Donald Trump quand certains disaient qu'il est contre les Noirs, que c'est tout lui qu'on a tué un Noir. J'ai demandé à la personne si c'est Donald Trump qui a envoyé tuer ce Noir. Non, ne donnez pas d'exemple comme ça. Je lui ai dit aussi que c'est sous Donald Trump que l'ambassadeur des États-Unis au Togo a demandé qu'on donne des résultats bureau de vote, pas de bureau de vote. Il pense aussi au Noir, il pense à notre liberté. Ne pensez pas que les Américains, on ne peut pas dire qu'ils sont à 100% bons. Mais la question des droits de l'homme, la justice est indépendante. Si c'était au Togo, on allait garder Donald Trump en prison et le ministre des États-Unis va sortir dire qu'il n'y a pas un prisonnier politique. Et on ne va pas les juger. Donald Trump sera là-bas sans justice jusqu'alors. Est-ce que quelqu'un peut dire le contraire? Si c'était au Togo, Donald Trump ne serait pas jugé. Est-ce que vous voyez? C'est ça mon intervention. Quoi.
D'accord, merci beaucoup, M. Nyamavo. Une intervention également sur notre numéro WhatsApp. Bonjour, mon nom c'est Léonard de Dabalakondi, à Lomé. Je ne sais pas pourquoi les Togolais se plaignent. Hein. C'est nous-mêmes qui avons donné le pouvoir à M. Faure de nous gouverner. Quand nous serons fatigués de lui, on va cesser de lui voter, c'est tout. Allô?
Allô?
Bonjour.
Oui, bonjour. Tout simplement, c'est pour saluer l'équipe qui vous entoure là-bas. Et ils ont fait des analyses vraiment qui font de moi le cœur en joie. Chapeau à vous, c'est tout ce que je peux vous dire.
D'accord. Merci. Le nom,
c'est éclairé sur le point du Ghana et des Rollins en 81.
D'accord. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Votre nom, c'est
Ça me va du droit au cœur. Je suis aussi un confrère. Mais je suis Kodjo à TV.
Ah, Kodjo. Merci beaucoup, monsieur Kodjo. Allô, bonjour. Allô. 90-86-35-35-91-36-63-115. Bonjour les amis, le Togo a de beautés en matière de droits de l'homme, mais il est difficile et dur pour le gouvernement de l'appliquer. Bonne émission et bonjour à madame Essi. Allô?
Oui, bonjour, c'est ici.
Ah, quand on parle du nom, on voit ça.
Parce que les gens ne veulent pas fermer. Quand on est là à faire ça, quoi, à perdre du temps, à débattre, voilà. Et les gens vont fermer. Tout ça là va s'arrêter, on va nous trouver de la bonne musique, du rock, du jazz, du tout ça. Bon, bref, vous avez parlé du Ghana, et Rollins, il a fait deux fois tout de ça, il a passé 20 ans au pouvoir quand même, et puis ils ont une constitution béton, si on peut le dire, mais ils essayent aussi de voler, de frauder, ils essayent aussi, c'est moins qu'ici, hein, ici c'est, ça fait légion, voilà, quoi. C'est dans la constitution, si on peut le dire, les fraudes électorales, ils l'ont inscrit dans notre constitution. Ce qui n'est pas bon, quoi. Et puis, au deuxième mandat de Nana, là, il y a eu des morts, non? Les Ghanéens ont été tués, non? Donc, c'est rose, rose. Même au Sénégal, tout ça, là. Bref, les Noirs ne sont pas sérieux. Les Noirs, ils ne sont pas sérieux, les gouvernants noirs, là. Il n'y a rien qui soit sérieux dedans. Mais ici, de grâce, il faut que le gouvernement d'ici alterne au bout des 12 mandats qu'ils ont fait. Ils sont même fatigués. Allez voir la télé, ils sont fatigués, ils sont usés. Comme ils nous ont usés, ils n'ont qu'à passer la main.
D'accord. Voilà. Merci, madame, ici pour votre intervention. Il y a André, depuis Dakar, au Sénégal, qui nous écrit. Salut, Canal FM. La corruption est un fléau qu'on ne peut jamais éradiquer, mais si on arrive à appliquer les lois aux personnes appréhendées, cela va décourager les autres à ne plus être corrompus. Merci. Nous recevons notre dernier auditeur pour le compte de cette émission. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Comment vous allez?
Ça va, Évangéliste Senghor.
Voilà, soyez bénis.
Merci.
Oh, je vais m'intéresser sur la direction du Ghana, qui est très beau, très, très, très excellent. Vous savez, tout à l'heure, quelqu'un, un de vos confrères disait que là, c'est la démocratie. Pas seulement la démocratie. Vous savez, un pays qui n'a pas de changement d'humain, il n'y a pas d'alternance, ce pays ne va jamais se développer. Je le répète toujours. Un pays qui ne change jamais le président, ce pays est toujours au dépotoir. Dites-moi, vous qui êtes, vous êtes sur le plateau, dites-moi, en tant qu'un évangéliste Senghor, quel est le lieu, si ce n'est pas Guido Goma, Sigame, Agoua, Sigame, Bagida, Sigame, wow. Vous voyez, non? Donc, il faut qu'il y ait de l'alternance. Déjà, même le président Agoua est parti. L'autre là qui va venir, il va essayer de faire plus que l'autre. C'est ça qui peut développer le pays. Prends le cas de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas loin de Paris, hein. Aujourd'hui, là. La Côte d'Ivoire n'est pas loin de Ouattara travailler. Mais aujourd'hui, voilà quand mon frère Fonia Simbe et tous ces ministres-là, ils voyagent. Je ne sais pas si toutes les bonnes choses les intéressent ou pas. On regarde quelque part et on vient copier ça dans votre pays. Ça, pour terminer, on a diminué le carburant à 20 francs, quelque chose comme ça. Mais c'est tout ce mouvement togolais. Le président burundais disait, l'autre fois, je le suivais, il disait que les ressources du pays, on doit partager ça avec la population. C'est un bon président, ça. Monsieur le Togo. Et là, vous allez voir, je reviens de Canal l'autre fois, la misère à Dorodose. Ceux dont on dépasse, ils sont devenus des vieux. Il n'y a rien. Mais les gens doivent suivre des milliards. Repentons-nous, hein. Les conséquences sont là.
Merci, Évangéliste Senghor, puisque notre temps est déjà avancé. Merci pour les uns et les autres, hein, pour les interventions. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer. C'est le principe de l'émission. Après le débat, nous leur donnons aussi la parole alors de s'exprimer. Vous avez écouté les uns et les autres. Votre réaction?
Non, ils ont écouté, on les a écoutés également. Donc, je crois que il y a un élément que le dernier intervenant, l'évangéliste Senghor, a dit, c'est un élément important qui dit dans un pays où il n'y a pas de changement démocratique, ça déteint également sur le développement du pays. Ça ne favorise pas le développement du pays parce que lorsque tu sais que tu feras 4 ans ou 5 ans et tu n'as que 10 ans à faire au pouvoir, mais tu vas te battre pour laisser tes empreintes. Et celui qui viendra, déjà si la barre était déjà haut, mais il essaiera donc de faire faire le génie pour te dépasser. Et c'est en cela, air de fier de guille. Donc on bâtit une grande nation. On bâtit donc un beau pays. Mais ici, lorsque vous savez que vous êtes là, ad vitam aeternam éternellement, qu'il pleut ou s'il neige, vous êtes là, que le coq chante ou pas, vous êtes là, que la nuit tombe ou pas, vous êtes là, mais bon, vous allez vous plaire dans ce que vous faites. Et c'est sûr, c'est ce qui est fait malheureusement. Vous sortez, vous rentrez au pays, bon voilà quoi. Il n'y a que à Sigamé, tout ça là. Vous quittez, bon c'est à Sigamé, vous allez partout, c'est à Sigamé. Bon.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
Quoi, c'est triste.
Ok, Abbas.
Oh, pas grand chose à ajouter, seulement que pour même féliciter le H-Kroon qui fait un travail surtout sur les réparations.
Mémorielle.
Qui vient d'ouvrir encore un atelier. Qui a ouvert ça hier sur les réparations mémoriales, parce que c'est une bonne chose pour amener les uns, les autres, surtout les Togolais, à se réconcilier par rapport aux blessures qu'ils ont eues. Et j'encourage aussi mon président Firmin Adjavon, qui est élu président de la Ligue maritime de Lomé.
Ligue régionale maritime.
Ligue régionale maritime. Okay. Bon vent à lui.
D'accord. Alors, je ne sais pas si tu as fait le constat que finalement les feux de signalisation sont réparés et dans certains quartiers ou sur certaines voies. Quand on prend des cons, dans cette semaine, j'ai constaté personnellement quand même que, comme nous avons l'habitude alors de le dire, que ces feux de signalisation, les feux rouges, qu'on arrive à les réparer pour que cela commence par fonctionner.
C'est insignifiant.
Peut-être que c'est la commune dans laquelle ces feux-là se trouvent.
Oui.
Qui a été réparé.
D'accord.
Mais le grave, le pire est là toujours au niveau de GTA.
Le GTA,
le
toujours exigé.
Le carrefour de la présidence, le grave.
Donc il y a toujours des choses qui restent à faire.
D'accord.
Donc on demande, surtout en cette fin d'année-là, si on pourrait réparer ces feux tricolores-là.
Surtout que la circulation est dense.
La circulation, surtout en cette fin d'année-là.
Tout à fait. Et Justin?
Non.
Tout à l'heure, quand j'écoutais les intervenants, je me suis posé encore beaucoup de questions. Parce que lorsque l'occasion leur est donnée, vous allez comprendre que les gens sont tellement mécontents. Non seulement le pays est mal digéré, mais les gens ont envie de l'alternance politique. Donc, devant cet engagement, je pense qu'il y a lieu de relever, de dire qu'il est temps que la France cesse de soutenir les dictatures dans ses anciennes colonies en Afrique. Le Togo fait partie de ces cas-là. Des décennies pour une seule famille au pouvoir, c'est assez.
Merci beaucoup, Jussieu Anani, d'être passé dans cette émission. Sylvestre Béni, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal La Manchette. Merci d'être passé dans cette émission. Merci Abbas Issaka d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes le directeur de publication du journal Le Mania Libéré. Jussieu Anani, là, vous êtes journaliste freelance et vous collaborez avec beaucoup de journaux, bien sûr. Et merci à vous tous qui nous avez suivis puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous qui nous avez appelés aussi. Ça nous intéresse beaucoup, votre avis, votre opinion sur des débats ou des sujets débattus ici au Club de la Presse. Merci à Kiki Sousa qui a assuré la mise en onde. La mise en ligne a été assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien, surtout prenez soin de vous. Au revoir.